Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Lison a très jeune choisi le volontariat comme première expérience d'expatriation. Dans cette émission Regarde ailleurs, elle revient sur son itinéraire, sur cette envie d'aller vivre des expériences à l'étranger. Avec elle, allons au Népal et en Inde et sur les routes qui nous mènent à soi au travers de diverses expériences de vie. L'émission s'appelle Regarde ailleurs. Regarde ailleurs, une émission qui donne la parole souvent à des voyageurs, des expatriés, des écrivains, des gens que je rencontre en France ou à l'étranger dans mes différents voyages. Là, on est avec Lison dans mon salon à Colmar. Donc Lison, toi, tu fais partie de ces gens qui essaient de suivre un petit peu leur voie intérieure, que ce soit dans tes activités professionnelles que tu essaies de mettre en place, dans les choix que tu fais dans ta vie. Mais le voyage fait aussi partie intégrante de toi. Je sais pas grand-chose, mais je sais que tu es passé par l'Inde, par le Népal. Donc on va dans cette émission s'intéresser un peu à ton itinéraire de vie. Et je vais te demander, qu'est-ce qui t'a amené la première fois, enfant, est-ce que tu te rappelles à quel moment tu as su que tu avais envie peut-être de quitter la région, le village dans lequel tu es né? À quel moment cette envie d'ailleurs est née, a émergé, est venue en toi?
Je pense que c'est pas venu enfant, je pense que c'est venu plus tard en étant adolescente, où j'avais toujours un besoin d'expérimenter, d'explorer. Je demandais toujours à mes copines d'aller faire une aventure le samedi après-midi, d'aller vivre, de partir avec des vélos, d'aller dans la montagne et de vivre des expériences incroyables. Et je pense que c'est né de là. Et après, à 14 ans, je sentais un appel, je commençais à voir des drapeaux tibétains, je commençais à m'intéresser au Tibet, et je sentais qu'il y avait une petite voix à l'intérieur de moi qui m'appelait vers le bouddhisme, vers l'Asie.
Donc déjà très jeune, t'étais dans une forme de quête, d'interrogation, peut-être de remise en question de tes croyances. Tu te dis déjà, jeune, tu as envie de partir à l'aventure. Qu'est-ce que c'est que partir à l'aventure pour toi? Pourquoi? Quel est l'intérêt de partir à l'aventure?
Je pense que c'était un désir de... Je sentais qu'au fond de moi, la vie n'était pas seulement de suivre, d'aller à l'école, d'aller au lycée, de faire ses études. Je sentais qu'il y avait autre chose, en fait, et que la vie n'était pas juste une succession de schémas que la société nous imposait. Je sentais qu'il y avait autre chose à aller gratter, et que la vie n'était pas seulement celle que je connaissais, et que c'était vraiment une curiosité de voir comment on vit ailleurs, et comment ailleurs on voit la vie. Et je pense que c'était la soif de découvrir, d'apprendre, et aussi de moi, d'expérimenter autre chose et de le vivre avec mon corps. Et la curiosité de me voir, moi, dans une autre culture et dans un autre milieu.
Tu parles d'attrait pour la spiritualité, le bouddhisme, les drapeaux tibétains, cet appel que tu as pu avoir pour les populations, donc plutôt asiatiques ou himalayennes. Ça a été ton premier voyage? À quel moment tu as pris la route pour la première fois, ou ce qui pour toi est réellement ton premier voyage qui t'a impacté ou qui t'a changé?
C'était quand j'avais 20 ans, je suis partie au Népal. J'ai d'abord fait 2 ans d'études, voilà, parce que j'avais besoin de me rassurer quelque part après le bac, de commencer des études. Et après, je suis partie au Népal et j'avais besoin de tout couper. Et c'était un volontariat avec une association, et je me suis retrouvée dans un village au sud du Népal à faire du maraîchage. Et j'ai vécu avec dans une famille bouddhiste pendant 8 mois. Donc famille bouddhiste avec le père, la mère, les enfants, les grands-parents et ma grand-mère d'accueil qui chantait des mantras tous les matins à 4h du matin en se réveillant.
Il y a quelque chose, c'est vrai que souvent quand on est jeune, quand on a fini ses études, on a ce besoin d'explorer, de découvrir le monde, souvent pour se rencontrer soi-même. Là tu parles de volontariat, il y a cette notion de cadre. Quand on a 20 ans, on ne sait pas forcément comment s'y prendre. On a peut-être peur, des peurs légitimes de ne pas connaître la langue, de ne pas connaître les codes culturels. Et c'est vrai que partir en tant que volontariat, ça peut être déjà un premier pas pour tous ceux qui ont cette envie d'ailleurs. Donc j'aimerais bien que tu nous parles de ça, ou que tu t'adresses un peu à tous ceux qui ont cette tranche d'âge, 17, 18, 19, 20 ans, qui ont aussi envie de partir. Parle-nous de cette expérience de volontariat et comment est-ce qu'on trouve son projet. Qu'est-ce que c'est que partir en tant que volontaire.
C'est juste ce que tu dis, je pense que j'avais besoin d'un cadre sécurisant, parce que déjà je parlais l'anglais, j'avais un niveau scolaire, et la barrière de la langue m'effrayait. Et oui, ça me paraissait tellement loin de moi, géographiquement, et tellement loin de ma culture. Et avec Internet, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'aller se renseigner sur ce qui se passe ailleurs. Mais il y avait quelque chose de rassurant de savoir que quelqu'un me cherchait à l'aéroport et que aussi de me sentir guidée aussi dans l'immersion culturelle, parce que se plonger dans une autre culture, c'est impressionnant. Et avec cette association-là, ça s'appelait Solidarité Jeunesse Internationale. On avait fait un week-end de préparation à l'immersion culturelle, qui, notamment des points qui m'ont marqué, c'est aussi quand tu arrives dans une culture, ne pas y aller avec tes gros sabots, avoir vraiment une période où t'es plus en observation, où t'es plus là à prendre un peu de recul pour sentir un peu ce qui se passe et un peu comprendre les codes qui se présentent là. Et ça m'avait vraiment, vraiment beaucoup aidé. Et en arrivant au Népal, on était un groupe de volontaires, donc on était ensemble, tous un peu pour... c'était notre premier voyage. Et de vivre ça aussi en collectif, c'était chouette. Et je pense que j'avais besoin... C'était chouette de se plonger culturellement dans ce village, mais c'était aussi chouette d'avoir d'autres volontaires de ma culture. Parce que c'est pas tout rose, en fait, d'être dans une autre culture, c'est chouette, c'est beau, mais en fait, ta culture te rattrape aussi. Et des fois, c'est chouette d'avoir des gens avec toi qui te comprennent.
Cette notion de volontariat, donc en fait, concrètement, il y a différents pays dans le monde qui te proposent différents types de missions. Et toi, en tant que volontaire, tu as une sorte de catalogue où tu vas sur Internet et tu regardes par pays quelles sont les missions qui t'intéressent. Donc j'imagine qu'il y a aussi différentes compétences. Tu parlais de maraîchage, mais ça peut peut-être être la préservation d'écosystèmes, ça peut peut-être être des projets plus en lien avec le social, l'éducation. C'est ça ? C'est comme ça que ça marche ?
Ouais. Alors par contre, il y a beaucoup de personnes qui croient que le volontariat, c'est de l'humanitaire. Ce n'est pas de l'humanitaire. Tu ne vas pas là pour... En fait, pour être volontaire, tu n'as pas besoin de compétences. Tu peux aller... Moi, je suis allée dans le maraîchage, j'avais pas de compétences en maraîchage. Et en fait, le volontariat, c'est plus une immersion culturelle, un apprentissage de toi. Bien sûr que tu y vas, tu donnes un coup de main, mais les gens n'ont pas besoin de toi en soi. Et c'est plus un échange culturel que de l'humanitaire.
Donc cette notion d'humilité est importante aussi. Finalement, on ne va pas vraiment aider l'autre, c'est souvent soi-même qu'on va aider.
Bah oui, puis finalement, t'apprends énormément, t'apprends sur la culture, t'apprends aussi, bah moi j'ai appris énormément au maraîchage, mais j'ai avant tout appris énormément sur moi. En fait, ça m'a permis, c'était aussi cette quête-là, pourquoi le voyage, c'était un voyage aussi avec moi-même, aller à la rencontre de moi-même, et c'est, moi je l'ai vécu vraiment... En te confrontant dans une autre culture, y a beaucoup de choses qui te renvoient sur toi, tes propres fonctionnements et tes propres fonctionnements personnels, mais aussi ta propre culture. Mais aussi de voir comment tu réagis quand tu es face à un milieu que tu ne connais pas, quand tu as perdu tes repères, quand tu n'as plus tes proches autour de toi. Comment tu réagis et qu'est-ce que tu mets en place et qu'est-ce que tu développes aussi. Et de sentir que j'ai vraiment senti que j'étais un être qui peut s'adapter énormément et évoluer énormément dans son milieu.
C'est souvent ça, c'est une question que j'aime bien poser, c'est le voyage, qu'est-ce que ça apporte ? Et une réponse qui est un peu récurrente, je te demanderai la tienne après, c'est cette notion de remise en question de ses propres croyances. Cette adaptation, on se rend vraiment compte que au-delà des peurs, c'est souvent ça qui nous bloque pour faire le premier pas, mais une fois qu'on se met en mouvement, on découvre aussi nos capacités d'adaptation qui sont souvent phénoménales.
Ouais, et puis c'est excitant en fait, une fois que tu y goûtes, bien sûr au début ça fait peur, et quand tu sens et que tu vois que, ah ouais en fait je peux m'adapter. Et du coup, c'est un outil que j'ai encore présent et qu'aujourd'hui me permet de partir seule quand j'en ai envie et de plus être dans mes croyances limitantes et d'y aller, en fait, et de faire confiance en la vie, en fait, et de me dire, si avec cette capacité d'adaptation, finalement, tu peux te retrouver dans tous les milieux, dans toutes les situations, et ça va aller, en fait. Et la vie, elle est là pour t'accompagner.
Cette notion de la peur, on en parle beaucoup. Qu'est-ce que tu perçois, toi, derrière les peurs et pourquoi est-ce que, selon toi, c'est important d'arriver à les dépasser ?
Parce que la vie vaut le coup d'être vécue et c'est dommage de s'arrêter à ses peurs. Et dépasser ses peurs, c'est aussi se dépasser soi et grandir, avancer. Et c'est beau, en fait, de ne pas s'arrêter, d'être sur un chemin qui évolue perpétuellement et pas s'arrêter, en fait.
Donc tu pars au Népal à l'âge de 20 ans, dans un premier temps, dans un cadre, hein, avec ce chantier, pour te retrouver dans une famille bouddhiste, à découvrir le maraîchage. Tu parlais au début de cette rencontre, de cet attrait que tu pouvais avoir pour l'Himalaya, pour les drapeaux tibétains, pour cette culture. Donc est-ce que tu l'as découvert dans ce premier voyage, ou qu'est-ce qui s'est passé après ton chantier? Tu es rentré en France ou tu as continué la route?
Après, je suis partie en Inde. Du coup, là, je suis partie en Inde vraiment avec mon sac à dos toute seule. Et c'était rigolo parce que les Népalais ont une image très négative des Indiens, surtout de l'Inde du Nord. Donc, beaucoup de gens me disaient, non, on va pas en Inde. Les Indiens sont méchants. Les Indiens, sont pas du tout comme nous. Effectivement, il y a un côté beaucoup moins doux qu'au Népal en Inde. Mais là, ça a été vraiment le dépassement de mes peurs de partir toute seule à New Delhi avec mon sac à dos. Et en tant que femme, c'était hyper fort.
Ça, c'est aussi un message important. Voyager en tant que femme seule, en plus en Inde, qui est un pays quand même très machiste, et on entend beaucoup d'horreurs, en fait, quand on lit les journaux et les médias. Donc voilà, tu l'as fait, tu as voyagé seule, et j'aimerais que tu t'adresses à toutes ces femmes qui ont envie, hein, de voyager seule, mais qui ont peut-être peur.
Moi, j'ai vraiment senti cet équilibre à trouver entre faire confiance. J'ai senti qu'à plusieurs reprises, j'étais un peu portée, que j'avais une bonne étoile qui était là pour veiller sur moi, et à la fois c'est de trouver cet équilibre entre faire attention, ne pas faire n'importe quoi, et à la fois de faire confiance. Après, moi, ce qui m'a aussi aidée, c'est que je suis grande en taille, je suis brune, et qu'à cette époque-là, j'avais les cheveux très courts comme un garçon, et que les gens dans la rue m'appelaient Babou, et ça voulait dire garçon, petit garçon. Et voilà, j'incarnais pas la femme occidentale qu'on voit dans les films, la femme. Et j'avais une amie qui, elle, était petite en taille, blonde, très séduisante, elle a eu beaucoup plus de difficultés en Inde que moi.
Pourquoi avoir choisi l'Inde après le Népal ?
C'était un challenge. Je pense que c'est un pays qui m'a toujours appelée, mais c'est vrai que c'était un pays qui m'effrayait énormément. Et j'entendais au Népal, j'ai rencontré beaucoup de voyageurs qui rentraient d'Inde et qui me racontaient des histoires incroyables. Et c'était vraiment la curiosité d'aller me confronter dans ce pays-là. Et par contre, là, le Népal a été une expérience très forte, mais quand je suis arrivée en Inde, j'ai senti que c'est ça que je recherchais, en fait. Cette folie, en fait, et cette richesse, et c'est une terre spirituelle, et c'est une... Enfin, je pense que c'est la culture la plus éloignée de nous, quoi, et c'est hyper, hyper intéressant.
Là, tu avais des projets particuliers. Donc avant, c'était du volontariat au Népal. L'Inde, c'était avec une direction, ou vraiment partir comme ça avec un guide sans vraiment trop savoir ce qui allait se passer et où tu allais aller?
J'avais fait mon itinéraire et du coup, je l'ai expérimenté. D'abord, j'étais seule. Après, j'étais avec mon ex-compagnon. On était à deux. Et après, j'avais rejoint un groupe d'une amie que je connaissais. Du coup, c'était intéressant aussi d'expérimenter le voyage seule, à deux et en groupe. Seul, du coup, t'es vachement... J'ai senti que j'étais très à l'écoute de ce qui se passait autour de moi et je suivais vraiment mes intuitions. À deux, tu commences à développer un petit cocon où... Voilà, t'es à la fois dans ton couple et à la fois ouvert sur l'extérieur, mais j'ai senti que j'étais moins ouverte. Et le groupe où tu vis des expériences fortes à l'intérieur du groupe, mais... du coup, je me sentais moins proche des locaux.
C'est vrai que c'est intéressant de voir qu'il y a différentes manières de voyager et on voyage pas du tout pareil, seul, accompagné ou en groupe.
Oui, mais je pense que c'est important. Je pense que je souhaite à tout le monde d'expérimenter le voyage seul parce que tu te retrouves des fois dans des situations où dingue, et en fait de voir comment tu réagis quand je me suis retrouvée une fois à Bombay à 4h du matin assise sur mon sac à attendre un bus. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Et tout s'est très bien passé, et j'ai fait des rencontres incroyables, et peut-être que cette situation-là, à deux, je ne l'aurais pas vécue de manière aussi forte, et elle ne m'aurait peut-être pas autant marquée. Such heavy, such not.
to God such heavy such nanika hosi be such e con cas satena careta por nir por nir ver a calamore ajuni sebangur prasa To God is such, heavy such, Nanak Hosi be such. Ekonka Satana Karata Purgir Pohnirve Akalamure Ajuni Sebangur Prasad. To God is such, heavy such, Nanak Hosi be such. Ekonka Satana Karata Purgir Pohnirver Akalamure Ajuni Sebangur Prasad. To God is such, heavy such, Nanak Hosi be such. Ekonka Satana Karata Purgir Pohnirver Akalamure Ajuni Sebangur Prasad. To God is such, heavy such, Nanak Hosi be such. Ekonka Satana Karata Purgir Pohnirver Akalamure Ajuni Sebangur Prasad. To God is such, heavy such, Nanak Hosi be such. Ekonka Satana Karata Purgir Nirbho Nirver Akalamure Ajuni Sebangur Prasad Chap. God is such, to God is such, heavy such, Nanak Hosi be such. Nanak Hosi be such.
L'Inde, tu es retourné, je crois, quelques années, ou peut-être quelques mois plus tard, pour y passer cette fois un an, une année complète en tant que volontaire, toujours, dans un lieu assez particulier qui s'appelle Auroville. J'aimerais que tu nous parles de cette expérience et d'Auroville que tu nous présentes à nous, auditeurs. Cet endroit un peu unique sur la planète.
Déjà, quand je suis rentrée de mon premier voyage, je savais que je devais retourner en Inde. Et je pense que c'était aussi l'attrait du pays, mais aussi je sentais que je cherchais à l'intérieur quelque chose, enfin, je cherchais en moi quelque chose que j'allais trouver en Inde. Et du coup, Auroville, c'est vrai que c'était vraiment l'aspect côté spiritualité qui m'attirait vraiment. Et j'y suis allée dans le cadre de mon stage de master. Et Auroville, qu'est-ce que c'est? C'est plein de choses à la fois, c'est difficile de résumer comme ça. Mais moi, ça a été un laboratoire d'expérimentation et c'est comme ça qu'on le décrit souvent. C'est un lieu, une bulle en fait, en Inde, d'expérimentation dans laquelle on peut vivre mais toutes sortes de choses et chacun peut y aller avec une aspiration différente.
Auroville, tu parles d'Auroville comme une bulle et comme un laboratoire d'expérience, mais il y a aussi toute une partie historique que j'aimerais, sur laquelle j'aimerais qu'on revienne. Donc la création d'Auroville, l'idée de ce projet international qui est basé en Inde, mais là-bas on y retrouve une cinquantaine, je crois même plus, de différentes nationalités. Donc reviens un peu sur l'origine, l'historique de ce projet ou ce que tu en sais.
je vais peut-être louper des étapes, mais du coup, c'était la mer avec Schreu Robineau qui ont eu cette vision d'un endroit sur Terre dans lequel les gens qui habitent transcendent un petit peu cette notion de différences de nationalité, différences culturelles. Et l'idée, c'était vraiment de se retrouver et de former une unité qui dépasse, comme je disais, les nationalités, la culture. Et vraiment, l'idée que moi, j'ai retenue, c'est vraiment la notion de trouver avant tout une unité intérieure individuellement chacun pour arriver à créer quelque chose en collectif. Et que du coup, cette harmonie en collectif ne peut pas fonctionner tant que individuellement il n'y a pas de travail. Enfin voilà, c'est vraiment avec le travail, la recherche spirituelle individuelle qu'on arrive à créer un projet collectif.
Avec cette notion de progrès, l'homme est... On se pose beaucoup de questions sur finalement quelle est la place de l'homme, qu'est-ce que l'homme fait sur Terre. Il y a cette notion de progrès, on est là pour évoluer, pour progresser. Alors le progrès, il n'est pas que technique, il n'est pas que matériel, il est aussi intellectuel, philosophique et spirituel.
Ouais, moi c'est vraiment l'aspect spirituel qui me parle beaucoup, cette notion de dépassement. Et oui, où on est chacun de nous à un endroit sur Terre, où on expérimente des choses, on vit des choses, et aussi où on accumule peut-être des blessures et des peurs et des schémas de croyances. Et pour moi, c'est ça la vie, c'est de dépasser ces schémas, ces peurs, et d'aller en contact de cette petite voix à l'intérieur qu'on peut appeler âme ou la source, cette chose qui rayonne en chacun de nous et qui est là pour nous guider. Et pour moi, c'est vraiment ça le travail, c'est d'aller au contact de cette lumière, d'aller au contact, et parce que c'est cette énergie-là qui sait où l'on va chacun de nous. Je pense qu'on a tous un chemin. Et que du coup, c'est en se mettant en contact de cette lumière qu'on sait où on va.
C'est quoi cette lumière ?
Chacun met les mots qu'il veut. Moi, ça va être mon âme. Il y en a qui vont parler de source. Et ouais, c'est cette énergie qu'on a à l'intérieur de nous, chacun de nous, mais qu'on a tous et qui finalement appartient à un grand tout. Et qui nous relie aussi, être humain.
Est-ce qu'on a besoin d'aller en Inde ?
On n'a pas besoin d'aller en Inde. Je pense qu'il y en a qui... Chacun a son chemin pour se connecter à cette lumière. Moi, je pense que j'ai eu besoin d'aller en Inde parce que ça m'appelait, parce que j'y ai trouvé des réponses. Et chacun a son chemin, en fait, pour se connecter à cette lumière.
Auroville, on en parle aussi comme étant une des plus anciennes communautés ou éco-villages dans le monde, hein, qui a été créé en 1968, donc il y a plus de 50 ans aujourd'hui, et qui existe toujours. On constate ou on observe dans nos sociétés actuelles cet engouement pour les vies collectives, les vies communautaires, les écovillages, les écolieux. Cette notion de sens qui est de plus en plus prégnante dans nos sociétés, je pense que nos parents, nos arrière-grands-parents, étaient moins dans cette recherche de sens. Et cette quête de sens, j'aimerais que tu m'en parles, que tu me dises ce que ça représente pour toi et pourquoi, selon toi, c'est important aujourd'hui d'essayer de remettre du sens dans nos existences.
Je pense que le collectif marche quand il y a une notion de recherche de soi et de prendre conscience que chacun de nous a des choses à mettre en place, à travailler, et que pour moi, le collectif ne peut pas marcher vraiment sans cette notion intérieure. Je pense qu'il y a... On parle beaucoup d'individualisme dans notre société, mais de manière très péjorative. Et ça, je l'ai vraiment senti au Népal, où c'était un mode de vie très communautariste, très famille. Et c'est vrai qu'on a tendance à idéaliser un petit peu ces schémas ancestraux. Mais je pense que je me suis réconciliée avec le fait que on est dans peut-être une société un peu individualiste, mais que c'est pas que négatif, en fait. L'individualisme, c'est aussi apprendre à s'écouter et respecter ce qu'il y a à l'intérieur et ce qui nous touche profondément, et ne pas être que dans le groupe. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre le groupe, faire ensemble, mais aussi écouter ce qu'il y a à l'intérieur de chacun de nous.
Auroville, tu y as passé une année, donc une année d'expatriation en Inde. Qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience ou de ton année là-bas ?
Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est cette notion de mettre en matière ce qui me porte à l'intérieur. Et notamment, on parle beaucoup de la notion du travail qui, dans notre société, pareil, est vue de manière très péjorative. Chez nous, le travail, c'est quelque chose qui doit être dur, difficile, pas drôle. Alors que non, le travail, pour moi, c'est une mise en matière de ce qui m'anime à l'intérieur. Et c'est cette notion aussi, à Auroville, d'expérimenter, en fait. Et c'est pour ça qu'on parle de laboratoire. c'est que c'est un lieu où tu peux mettre en matière et tu peux apprendre, découvrir, et que c'est un endroit rempli de gens qui ont envie d'expérimenter et qui font des expérimentations. Et c'est un lieu où tu peux apprendre dans beaucoup de domaines, expérimenter toi-même.
Mais c'est peut-être aussi ça ce que peut apporter le voyage, c'est on s'adapte dans la culture des autres, donc c'est aussi à nous de s'adapter dans notre propre pays. Quand on rentre, parce qu'on parle souvent de retour difficile, parce qu'on a vécu une expérience forte, mais si on a su s'adapter là-bas, c'est vraiment à nous aussi de faire ce chemin pour réussir à se mettre à niveau ou à s'adapter à ce qui se passe autour de nous dans sa cellule familiale ou amicale.
Oui, s'adapter, et je pense que le voyage m'a aussi appris à pas être, à pas voir les choses de soit blanc soit noir. En fait, j'ai vraiment senti qu'il y a des belles choses partout, qu'il y a du positif partout, et que c'est pas l'Inde pays parfait et la France pays mauvais. En fait, enfin, il y a des choses dans tous les milieux, il y a des choses à prendre qui nous nourrissent et d'autres choses qui nous plaisent moins. Mais oui, c'est l'expérience, en fait, qui est intéressante, l'expérience de me voir un petit peu caméléon, de me voir m'adapter dans un milieu et d'être touchée aussi, autant par un Indien que par un agriculteur sur son tracteur au fin fond de la France.
Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ceux qui ont envie de prendre la route ?
D'y aller, j'ai envie de dire la vie est là, prenez-la, vivez-la. La vie est là, quoi qu'il se passe, en fait. Aujourd'hui, on est dans une période particulière où il y a ce virus, ce coronavirus, mais la vie, elle est là, elle passe, en fait, à chacun de nous la saisir et de vivre ces expériences.
La vie est là et ose ta vie. Qu'est-ce que c'est que ose ta vie ?
Ose ta vie, c'est une association pour les jeunes. C'est une association pour les jeunes de 18 à 35 ans. Qui organise des retraites, donc il y en a 4 dans l'année, qui durent une semaine, et c'est tout simplement une bulle au milieu de ce tourbillon de la vie, qui rassemble ces jeunes qui... Et l'intention de ces retraites, c'est vraiment d'expérimenter à la fois la profondeur, à la fois le partage, à la fois la célébration, à la fois la découverte de soi, et à la fois, comme le nom le dit, de oser, en fait. Aller sentir ce qui vit à l'intérieur, le vivre en collectif et oser être, en fait. Oser se connaître et se dépasser.
Cette notion d'oser ou d'audace, c'est quelque chose qui est finalement important pour sortir de sa zone de confort.
Ouais, c'est important parce qu'il y a tellement de choses à apprendre dans la vie, à découvrir, et chacun avec son parcours, d'où il vient, ses casseroles, et oser se dépasser, c'est un super cadeau, en fait. Et moi, je sens qu'à partir du moment où j'ai commencé à faire les premiers pas, j'ai eu cette excitation de me dire « Waouh, en fait, je peux me dépasser. » Et du coup, si je fais un deuxième, un troisième, un quatrième, je vais encore avancer encore plus loin. Et ça, c'est génial.
Et souvent dans la vie, on a parfois une personne, un bouquin ou une citation qui nous sert un petit peu de lumière, de direction, qui nous montre le chemin. Est-ce que toi, tu as un livre qui t'a inspiré, que tu aimerais partager avec nous, ou une phrase que tu aimes bien te répéter pour te rappeler à quel point la vie est un cadeau ?
Ce qui me vient, c'est ma maman. Quand j'étais adolescente, à 14 ans, j'étais pas bien dans mes pompes, et à chaque fois je m'énervais parce que j'étais pas bien. Et ma mère, qui est beaucoup portée dans le chamanisme, me disait toujours « Mais va dans tes pieds, va dans tes pieds !» Et je comprenais pas cette phrase, en fait. Pourquoi elle me dit d'aller dans mes pieds ? Et avec le temps, le recul, je comprends aujourd'hui cette phrase, c'est de quitter mon mental et d'aller sentir ce qui se passe dans mon corps. Et c'est dans le corps, enfin, l'instant présent se vit dans le corps et pas dans la tête. Et quand moi je suis dans la tête, je suis dans le passé, le futur ou dans l'analyse. Et en fait, d'aller dans ses pieds ou dans son corps, c'est d'être là, en fait, d'incarner dans le présent.
Et comment on fait pour aller dans ses pieds alors, maintenant que tu as fait tout ce cheminement ?
Ça peut être aller marcher en montagne, ça peut être méditer, ça peut être écouter une musique, ça peut être faire l'amour aussi. Être dans la joie, dans la légèreté, et pas trop se prendre au sérieux, surtout.
Lisons, merci.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.